Alors maintenant, oui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce temps? Ah ben par exemple, écouter lire. Ah oui, bonne idée. Écouter lire, l'émission de Radio Alto, c'est maintenant.
Bonjour. Dans nos régions tempérées où l'imaginaire a sensiblement moins d'adeptes que la psycho ou la métaphysico, Gérard Klein peut à juste titre passer pour une singulière exception. Il a toujours été hanté par la science-fiction. Et voici, extrait du recueil « Histoire comme si » de Gérard Klein, « La pluie ». De Gérard Klein, extrait du recueil « Histoire comme si », la pluie. Il n'aimait rien tant que parcourir un livre connu et de la fenêtre, regarder les arbres, les maisons et les gens avec la surprise et l'angoisse légère de la découverte. Quelquefois, il dévalait en pensée l'avenue large et déserte et quand il levait la tête des chemins de mots, et qu'il apercevait la grisaille des pavés et des encadrements humides des fenêtres, il s'adressait aux volets clos, aux rideaux tirés, aux stores baissés, et leur demandait silencieusement quels importants secrets ils pouvaient bien cacher pour que personne ne jette jamais de l'intérieur un coup d'œil dans la rue, ou le temps d'un éclair, juste faire frémir un voile de tulle, entendre grincer un volet de fer, et reculer, horrifié par la pâleur sépulcrale et le vide insoutenable de l'avenue, tel de furtives et inconnaissables apparitions. Tout cela de sa fenêtre, en regardant. Jamais d'autres pas de pensée que les siens n'avaient frappé ses oreilles. Jamais, en des années de rêve, il n'avait rencontré personne. C'était une ville déserte, muette. Peut-être les maisons anciennes et les fenêtres obstinément endormies derrière leurs paupières d'acier n'existaient-elles que pour lui? Il déambulait, invisible, au bout de ses yeux, entre des murs hauts et lisses comme des décors, tandis que les ardoises des toits et les vitres tissaient autour de lui un piège de lumière, un lacis de rayons du soleil rare. La ville dormait à longueur d'année sous sa carapace d'ennui. En vérité, la ville vivait de sa propre vie, bruyante et grouillante, hurlant de sons et de couleurs. Une fois, il avait franchi une porte et était parvenu dans une autre ville et dans la même ville, sur une autre terre et sur la même terre. Il avait choisi et là, il pouvait arriver n'importe quoi. Le plus souvent, il ouvrait une porte au fond de son cerveau qui donnait sur des chemins inventés. Il plongeait de plus en plus profondément dans le dehors et il abandonnait l'avenue froide et les pavés vivants et scintillants. Il errait dans l'espace par des chemins personnels et il explorait les villes brillantes et mortes des galaxies. Peu de gens avaient dû découvrir les portes du dehors, car là non plus il ne croisait jamais personne. Il ne rencontrait que des choses mortes et quelquefois un reflet, un fantôme, un double oublié et perdu en quelques labyrinthes, et rattrapé soudain au hasard de l'espace. Des journées entières, il écoutait le vent, les plaines, les herbes et les choses du dehors. Il attendait sans cesse un bruit, une voie, il cherchait sans relâche la porte de la vie. Ce jour-là, il marchait dans des détails souterrains de très anciennes vies, de très vieilles mémoires, et il ouvrait des portes, abattait des murs, forçait des serrures empâtées de rouille, et ne se contentait pas d'avancer indéfiniment entre des façades comme il l'aurait fait dans la ville. Souvent, la porte d'une cave grinçait sur ses gonds et pivotait d'elle-même, et il s'attendait à voir surgir des légions de démons, d'elfes et de striges, ou simplement, sous une forme plus subtile, des vapeurs d'angoisse. Mais il se dégageait seulement des ténèbres une odeur d'anciens âges et de feuilles mortes, de pièges inanimés et d'acier poli qu'il humait et savourait avec une satisfaction mélancolique. Et tandis qu'il s'efforçait d'éloigner les ombres de l'avenue, il discernait déjà au fond des immenses oubliettes du temps ce qu'il allait découvrir sous un sable damné. Il descendit des marches glissantes et usées. Il exhuma de très vieux flacons de contes, longuement décantés, des souvenirs terrifiants et prêts à exploser, de profondes traces de griffes à peine cicatrisées dans la pierre, et des clés, les clés magiques des étoiles et du temps. En un million de vies, il ne parviendrait pas à épuiser les profondeurs du dehors. Il nota ce que disaient des voix gémissant dans la nuit, il numérota des décombres de maisons hantées, il reconstitua des machines à voyager dans le temps, mais sa crainte et son agitation grandissaient. Il travaillait avec une ardeur frénétique et lorsqu'il eut repoussé les hautes vagues de poussière, il découvrit une trappe. Il se mit à gratter la terre avec ses ongles, il prononçait des formules magiques, son visage brillait, des étincelles jaillissaient de ses cheveux dressés. Une chance, l'ombre d'une chance sous cette trappe. Rencontrer quelqu'un, une momie endormie depuis des siècles, une cataleptique prématurément inhumée. Il saisit l'anneau, la dalle roula et résonna longtemps. Il aurait juré qu'elle criait. Une âcre odeur de vide montait du puits. Il descendit en hâte les échelons de fer et presque immédiatement il déboucha au sortir d'une région brumeuse sur son livre, sur les étranges routes de sa pensée et sur sa fenêtre, aussi largement ouverte qu'un gouffre sur le monde prisonnier. « Suis-je revenu ? » pensa-t-il. Ai-je traversé une telle distance? Ou est-ce une autre chambre, au-delà du dehors? Ou est-ce que je rêve tout, absolument tout, la ville et le dehors? Il étudia longuement la pièce. Il attendit, immobile, arrêté, les narines palpitantes, les oreilles en éveil, les yeux écarquillés, les mains en avant et prêtes à palper. C'était la première fois qu'une route du monde d'en dessous le ramenait ici. La trappe était demeurée ouverte. Il sentait nettement que le monde d'en dessous pouvait déferler librement, en marée fantastique, en nuée de rêves, sur le monde prisonnier, et l'un s'effondrait dans l'autre. Il se sentait terrifié parce qu'il n'avait à redouter ni une armée de monstres, ni d'étranges dieux destructeurs, mais rien, rien, le vide et le silence des rêves. Il attendait du fond des plus vieilles craintes, des ailes noires, des vapeurs soufrées, à un déploiement de forces sataniques, de puissance, des clignotements d'yeux et d'étoiles, des apparitions d'innommables, jaillissant de toutes les sources de l'univers sur le seul monde scellé et condamné si longtemps, et des êtres gluants, des êtres glissants, des êtres rampants sur des branches d'étoiles, des tentacules d'espace, des corolles dévoreuses de vide. Et rien, rien ne vint. La Terre avait depuis si longtemps rompu les ponts, muré les portes que les autres mondes avaient dû l'oublier. Il attendait, il n'espérait plus rien. Il cherchait à retourner fouiller dans les univers, mais le puits demeurait hors de sa portée et il ne trouvait plus dans sa tête le bouton de la porte intérieure. Il ne parvenait plus à s'enfoncer, à plonger, il flottait. Il pleura longtemps sur les mondes perdus. Quelque chose effleura sa joue, une pluie. Quelque chose s'écrasait sur la table, sur les livres, avec un lent tambourinement inaudible, dégoulinait des vitres et coulait dans la rue en emportant des branches mortes qui, quelquefois, se mettaient à fleurir comme autrefois. Il frissonna. Quelque chose lui caressa le front. Il regarda le plafond et au-delà, au travers d'une transparence ouatée qui nimbait des formes, mais rien ne descendait de nulle part. Une pluie, une brise douce, la pluie toucha un mécanisme dans sa tête. Une nuée de souvenirs se mirent à grincer, à bourdonner, à osciller comme des rouages longtemps rouillés. Des terreurs d'enfants dans le noir, des êtres inachevés, amputés, brandissant des lambeaux de ténèbres, des pattes d'araignées courant dans tous les sens sur les murs glaireux des souterrains de la nuit, et tout au long des corridors du temps, des embranchements innombrables, des galeries murées et ricanantes, des abîmes pleins de pinces et de choses écailleuses et visqueuses dans lesquelles il glissait, des obstacles de pierre qu'il défonçait à la vitesse du vent, tandis que la marée le charriait vers de plus grandes profondeurs. Les livres, tout souillés de la pluie, se racornirent et s'empoussiérèrent. Le bois de la fenêtre se désagrégea et les vitres se brisèrent avec le grincement léger d'un très ancien cristal. Puis, ce fut le tour des poteaux de sapin. La pluie leur fit pousser des branches d'autrefois, les couvrit d'aiguilles vertes, et les élaga, les scia, les décomposa dans l'entortillement de leurs nefs métalliques. Les gouttes continuaient de tomber. Il vit en un éclair ce que la ville avait été 10 ans plus tôt, 100 ans plus tôt, plus tard. Des trois truelles et des lueurs de fusée transpercèrent la pluie. Les gouttes creusaient des fondrières dans la route, découpaient dans les murailles des auréoles suintantes d'humidité verdâtre, dévalaient les caniveaux, blanchissaient les os des rats dans les égouts et brûlaient les pages du livre dans sa main. Il resta un peu de cendre grise et blanche qui s'échappa de ses doigts comme d'un sablier et s'amoncela sur le plancher, soudain vermoulu. La ville était malade. « On ne peut pas se protéger, » dit-il tout haut à la ville. « On ne peut courir nulle part, il pleut partout, partout, sous tous les toits, dans toutes les maisons. » Quelque chose toucha son doigt. Il baissa machinalement les yeux. Le doigt se rida et devint gris, crochu et fragile, très fragile. Il referma sa main pour ne plus le voir et pour le protéger. Il sentit les gouttes sur toute sa main, sur ses deux mains. Il les fourra sous la table pour ne plus les regarder. Des mains de vieillard, mécaniques, tantôt grises et plombées, tantôt roses comme la peau d'un enfant. « Ce n'est pas possible. Je ne veux pas. Il y a tant de choses que je n'ai pas connues. » Tant de rencontres que je n'ai pas faites, tant d'êtres que je n'ai pas aimés, et que j'avais vus nettement comme des choses promises, et qui me filent entre les doigts à la vitesse de la lumière. S'accrocher, s'arrêter, rien de sûr, pas une présence. Tout à coup, il se vit en train de courir le long d'une pente raide, de plus en plus vite, et la pluie ravinait, la pluie emportait, la pluie dissolvait, pourrissait, la pluie s'infiltrait insidieusement et subitement. Les arbres grandissaient, imprégnés de la pluie, et finissaient par tendre désespérément les brindilles écorchées et sèches, comme des doigts suppliants vers le ciel. Et la ville se mettait à ressembler à des palais enfouis ou à des allées de tombeaux détruits. Des ruisseaux de pluie coulaient à ses côtés. La ville s'embarquait sur les fleuves de la pluie par petits tas de ruines qui descendaient les rues. La peau de son crâne lui fit mal. Des gouttes dégoulinaient comme des larmes le long de ses joues et de son nez. La pluie le giflait, et il ne savait plus s'il marchait dans l'avenue entre les torrents de gouttes ou s'il cherchait encore les portes de l'espace. Ses cheveux glissèrent sur ses paupières courbées. Des ricanements. La pluie était une sorcière qui plissait la peau, recroquevillait les visages et les mains. Des fantômes étincelèrent aux fenêtres des maisons branlantes. Des roulements de tonnerre crevèrent les rideaux de la pluie et remontèrent des anciens âges. Il sauta par la fenêtre et se retrouva dans l'avenue, sur des pavés branlants comme des dents déchaussées. La rue était vide et déserte. Il ne voyait rien. Il sentait seulement l'action sourde et irrémédiable de la pluie. Et de temps en temps, quelque chose tombait dans le silence. Ses mains se rétrécirent et se mirent à trembler. 1000 ans, 10 000 ans brillaient et palpitaient dans sa tête. Il ne cherchait plus à éviter la pluie. Il avait l'expérience d'un 1 000 000 d'années. Il hésitait au milieu des millions de portes. Comprendre. Était-ce cela? Était-ce ceci? Était-ce vraiment cette pluie? Il remontait plus haut. Il fouillait les cendres des feux de sorcières à la recherche de bribes, de souvenirs. De tous les souterrains de l'univers, de tous les boyaux de l'espace, surgirent ces fantômes propres, ces apparences, ces âges. Ils l'entourèrent en silence. Et il les regarda venir avec stupeur. Ils s'installèrent autour de lui comme une peau. Tic, 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 tic. L'horloge, tic, tic, tic. Toutes les horloges de la ville, tic, 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 tic. 1000 secondes en 1 seconde, 1000 millions de minutes en 1 minute. Des cliquettements, des claquements, des chaînes, des ressorts, des poids, des balanciers, des marteaux, des sonneries, lancées à toute allure. Une multitude d'aiguilles galopant, une chevauchée infernale, sous le poids des gouttes de la pluie. Tic, tic, tic. Arrêt. Silence. Cette pluie, il connaissait cette pluie. Un spectre remonta l'avenue, lentement, vers lui. Il voyait au travers de cette silhouette. Ils avancèrent l'un vers l'autre, puis leurs nez, leurs joues et leurs yeux se touchèrent, se pénétrèrent, et alors il se souvint. Un grand calme. La pluie avait dissous tous ses nerfs. Les trottoirs se décélèrent et partirent tout doucement à la dérive. La pluie ruisselait sur son visage. Sa bouche était si petite qu'il pouvait à peine parler. « Une pluie de temps, » dit-il encore, « une pluie d'avenir. Mais dans quel monde ?» Il se dressa au milieu de la rue. Les maisons tremblèrent dans leurs fondations et commencèrent de crouler avec des hurlements de châteaux hantés. Il s'affaissa, il tomba. Tous les spectres tombèrent et gémirent avec lui. La poussière de ses os tannés s'abîma enfin dans le silence d'une mare de temps, pendant que la pluie invisible inondait et dévastait la ville. Nous avons entendu extrait du recueil « Histoire comme si » de Gérard Klein, « La pluie ».
C'était Écouter lire, une émission de Radio Alto.